Radio Okapi.
Le journal vous est présenté par Bibi Moukonkole.
Okapi.
La motion de défiance initiée contre Thomas Louaka, rejetée hier vendredi par l'Assemblée nationale pour cause d'absence de la majorité des signataires et de leur porte-parole qui devait rendre public le contenu de la motion. Situation sécuritaire au sud du territoire de Loubero. Le gouvernement du Nord Kivu se dit confiant quant à son évolution positive. Cela en dépit de la présence encore signalée de quelques combattants FDLR dans certaines localités. Nous parlerons aussi dans ce journal du programme Signature, lancé hier à Kinshasa. C'est un programme de santé de l'ONG Save the Children, prévu pour 4 ans, pour aider à réduire le décès chez les enfants de moins de 5 ans en RDC. Bienvenue dans ce journal. Thomas Louaka maintient sa place au sein du gouvernement. La motion de défiance initiée contre le vice-premier ministre chargé des postes téléphone et télécommunications a été rejetée hier vendredi par la plénière de l'Assemblée nationale. Pour cause, l'absence de la majorité des signataires et de leur porte-parole qui devait rendre public le contenu de la motion. Pour rappel, dans cette motion, il était reproché à Thomas Louaka d'avoir privé aux Congolais leur liberté d'expression en coupant les réseaux sociaux au mois de janvier dernier. Récit des faits avec Mimi Ngumba Mulongo.
Sur les 52 signataires de la motion contre Thomas Louaka, seuls deux avaient signalé leur présence dans la salle de congrès au moment d'aborder ce sujet. Pendant ces temps, à la tribune, les décors étaient bien plantés pour décider du départ ou non du vice-premier ministre du gouvernement, à savoir isoloir, urne, table et chaise. Suite à l'absence du porte-parole de signataires, certains ont pensé qu'il fallait reporter la plénière. C'est le cas de Noël Botakile de la majorité présidentielle.
Je ne pense pas qu'il était indiqué que pendant que certains signataires sont dans la salle, qu'on ne débatte pas de la motion, c'était pas indiqué.
D'autres par contre ont pensé que l'absence du porte-parole ne pouvait pas faire obstacle à l'examen de la motion. Cas de Papi Nyango de l'opposition.
Je crois que la plénière ne pouvait pas conclure dans ce sens-là. Est-ce lorsque plusieurs députés signent une initiative de contrôle parlementaire et que le tout premier est absent, l'initiative peut faire l'objet d'un rejet? Je ne crois pas.
Pour d'autres encore, cette absence des opposants ne pouvait s'est justifié dans la mesure où ils étaient informés de la programmation de cette question. Bref, la plénière a voté carrément pour le rejet de la motion. Le président de l'Assemblée nationale a lui promis de saisir les signataires en vue de faire part de son indignation.
En politique toujours, va-t-on vers l'organisation d'un dialogue national? En tout cas, cela le présage avec l'envoi récemment par le président Joseph Kabila d'un émissaire dans les états-majors de l'UDPS, MLC et UNC, trois grands partis politiques de l'opposition ainsi qu'au groupe parlementaire des libéraux, démocrates et socialistes. Si au MLC de Jean-Pierre Bemba, on fait savoir à Radio Capi qu'on peaufine le cahier des charges en termes de conditionnalité au groupe parlementaire des libéraux, démocrates et socialistes, on estime que ce dialogue n'a pas véritablement sa raison d'être pour l'instant. José Makila, président de ce groupe parlementaire des libéraux, démocrates et socialistes, est joué en téléphone par Innocent Liga.
Nous avions répondu aux représentants du président de la République que nous n'étions que membres des bureaux et que nous devions nous référer à la plénière de notre groupe parlementaire. Et jusque-là, nous ne sommes pas encore réunis pour prendre une décision. Mais si vous voulez savoir ce que moi je pense de cela, je vous dis tout simplement que pourquoi faire? Parce que nous sortons des concertations et tout le monde sait que ces concertations ont abouti à des résolutions, mais qui ne sont pas encore appliquées jusqu'à aujourd'hui. Donc nous devons aller aux élections pour sortir les députés provinciaux, les sénateurs et les gouverneurs. Par après, on ira tout droit en 2016 pour élire le président de la République au mois de novembre et les députés nationaux. Voilà, c'est de ça que nous devons parler. Nous ne devons pas parler d'autre chose. Je refuse de penser que nous devons griffer tout en bafouant notre constitution. Je ne veux même pas imaginer cela. C'est la position de mon parti politique, l'ATD. Nous refusons le glissement. Voilà.
Le gouverneur de la province du Nord Kivu se dit confiant quant à l'évolution positive de la situation sécuritaire au sud du territoire de Loubero, cela en dépit de la présence encore signalée de quelques combattants FDLR qui commettent des exactions contre les civils dans certaines localités. Kassouo, l'un des plus grands bastions des FDLR, est déjà libéré par les FARDC, a déclaré Julien Paloukou. Évaluation faite à l'issue de la mission d'une semaine dans la partie nord de la province, notamment à Loubero. On l'écoute au micro de Denise Loukesso.
Pour l'instant, nous pensons que l'évolution aussi de Lubero est positive, hormis encore quelques petites exactions qui sont commises ça et là, notamment dans les périphéries de Bunyatenge, Mbouavignoua, de Miriki, mais également dans les fins fonds de Kasuo. Lorsque vous dépassez Kasuo, Kasuo est surplombé par des montagnes vers Maseke Seke et vers les territoires de Walikale. On note encore la présence de quelques groupuscules de FDLR. Mais comme vous le savez, les opérations ont déjà été lancées par les FARDC. Nous attendons que la MONUSCO se joigne, étant donné que les tractations entre la MONUSCO et le pouvoir central se passent à Kinshasa. Et nous pensons qu'une fois cette reprise est faite, ça sera la fin de la présence de cette force négative dans la province Nord-Kivu et particulièrement dans la partie sud de la province, au sud de Lubero, dans les Massissi, à Rutshuru comme dans Walikale.
Entre-temps, au sud Kivu, le commandant du 42e bataillon des FARDC basé à Sangé appelle la population des localités de Roussabagui, Sassira, Kaberagoulé, Nyamouma, Ngendo et Sangé à collaborer avec l'armée nationale dans la sécurisation de la plaine de la Ruzizi. Appel lancé jeudi dernier à la clôture d'une tournée de 2 jours effectuée dans ces entités. Pour le lieutenant-colonel David Abouta Banza, les FARDC ne peuvent pas assurer seuls la sécurité face à l'afflux des réfugiés burundais dans l'entité. Appel soutenu par le coordinateur de la nouvelle société civile congolaise de Sangé. D'autres détails avec vous, Gilbert Kwangaba de la radio rurale de Sangé.
Environ 5000 Burundais sont réfugiés dans les localités de la plaine de la Ruzizi depuis 2 semaines. Selon les commandants du 42e bataillon des FARDC à Sangé, certains réfugiés vivent dans des familles d'accueil. Leur identification, dit-il, pose problème. D'autres réfugiés, ajoute le lieutenant-colonel David Abouta Banza, campés le long de la rivière Ruzizi. Ces derniers, affirme-t-il, ne sont pas encore identifiés. Pour lui, les FARDC ont besoin de l'appui de la population. Certains Burundais, notent les coordinateurs de la nouvelle société civile congolaise de Sangé, traversaient la frontière de la RDC frauduleusement. Bernard Kadogo Tondo soutient l'appel du commandant des FARDC à Sangé. Il plaide pour un déploiement des effectifs et des FARDC dans différentes localités de la plaine de la Ruzizi. À ce sujet, confirme le lieutenant-colonel David Abouta Banza, les dispositions sont déjà prises. Sangé, Gilbert Kwanga Badjougoum, Radio Rurale de Sangé pour Radio Okapi.
Parlons santé avec le lancement officiel hier vendredi à Kinshasa du programme Signature. C'est un programme de santé de l'ONG Save the Children financé par GSK pour aider à réduire les décès chez les enfants de moins de 5 ans en RDC pendant 4 ans. Pour une enveloppe de 9 millions de livres sterling, soit environ 12 millions de dollars américains, ce programme concerne 4 zones de santé, dont une à Kinshasa, Mongafula et 3 au Kasaï oriental. Innocent Olinga nous en parle.
Les responsables des Save the Children et des GSK confirment que ce programme vise à améliorer la qualité des soins de santé en RDC pour aider à lutter contre les fardeaux des 5 maladies infantiles les plus courantes, à savoir la rougeole, le paludisme, la diarrhée, la polio et la pneumonie. Le programme Signature met l'accent sur une série d'activités, notamment la construction et l'amélioration des établissements de santé, la fourniture des médicaments essentiels et des vaccins par l'amélioration des systèmes des chaînes d'approvisionnement et la formation du personnel médical et des travailleurs de santé communautaire. Plus de 150 000 enfants de moins de 5 ans sont les bénéficiaires directs de ces programmes, tandis que 800 000 personnes adultes en bénéficient indirectement. 4 autres zones de santé sont concernées par la deuxième phase de ces programmes. Notez que d'après les statistiques des Save the Children, 80% d'enfants meurent dans la communauté, 15% dans les centres de santé et 5% dans les hôpitaux généraux. Ces enfants meurent des maladies pourtant évitable, not safe the children.
Retournons à l'Assemblée nationale pour parler de la question orale d'Emery Okundji, adressée hier vendredi au ministre de la Santé. Ce député a demandé les circonstances qui ont occasionné la mort en février dernier de l'étudiante Julieta Fermino de l'Université protestante au Congo. Dans sa réponse, Félix Kabangi Numbi a soutenu que la version de l'ingestion du formol par la défunte n'a été qu'un montage pour justifier la vraie cause du décès par l'hôpital du Saint-Cantenaire où était soignée cette dame. C'est en tout cas le résultat révélé à l'issue de l'enquête, a affirmé le ministre. D'où la demande d'Emery Okumji de la mise sur pied d'une mission d'enquête en vue de se rendre compte de la gestion de cet hôpital. Mimi Ngumba Mulongo.
Le dossier médical de Julieta Firmino n'a été confié à la commission d'enquête que 4 jours après les débuts de l'ambition, a déploré le ministre de la Santé. Ce document contenait des éléments très contradictoires, ce qui traduit, a ajouté Félix Kabangenumbi, une falsification des données. Au ministre de poursuivre que les tableaux cliniques présentaient une discordance criante avec les résultats des examens paracliniques. Bref, conclut le ministre, l'administration du formol comme cause du décès n'a été qu'un montage. Avis partagé par Emery Okundji, auteur de la question orale, qui cependant a condamné cet acte.
La dame est morte par erreur médicale, par erreur de ceux qui l'ont soignée. Ils n'ont pas été à la hauteur. Le premier problème, c'est les frais hospitaliers qui sont très excessifs. Le deuxième problème, c'est la communication. Les responsables de cet hôpital ne parlent qu'anglais. Et le troisième problème, c'est la compétence.
À ce stade, il demande la mise sur pied d'une mission d'enquête parlementaire en vue de faire la lumière sur cette affaire et ainsi avoir une idée nette de la gestion de cet hôpital.
C'est la fin de cette deuxième édition du journal. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde sur radiocapi.net.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.